RCF.
Je crois à la vie éternelle, c'est dans le credo des chrétiens, mais à quoi croyons-nous véritablement? À une vie après la mort? À une vie lumineuse avant la mort? À une vie qui n'est plus nous, mais le Christ qui vit en nous, pour reprendre les mots de l'apôtre Paul? Bien, la fête de la Toussaint est l'occasion de revenir sur notre foi en la vie éternelle. Peut-on dire qu'elle commence dès maintenant sur Terre? C'est ce que nous allons voir avec vous, Marina Copsidas, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes chrétienne orthodoxe, passionnée par les Écritures, avec une vie dans le monde des affaires, la vie de Marthe, et puis une vie de Marie à l'Institut supérieur de théologie des arts, que vous avez pu suivre à l'Institut catholique de Paris. Vous avez également étudié à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, et puis vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus récent est édité chez l'Harmattan et qui s'intitule « À la rencontre de la vie éternelle ». Il est préfacé par le philosophe Bertrand Vergely. Alors vous nous proposez une sorte de méditation sur la lumière, on y reviendra, mais je voudrais simplement, avant qu'on s'arrête sur une icône, puisque c'est ce qui vous inspire, c'est très prégnant chez les orthodoxes, mais c'est aussi pour vous une source d'inspiration, et c'est l'icône de la transfiguration, c'est celle que vous avez choisi de poser sur la couverture de votre ouvrage. Comment est-ce que vous faites le lien entre la transfiguration et la vie éternelle?
Parce que la transfiguration du Christ, il faut dire que c'est deux événements dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu la première qui était donc Moïse au Tabor, mais Dieu ne se fait voir que dans le buisson ardent et dans la nuée. Et dans l'Exode, on disait qu'on ne pouvait pas voir Dieu sans mourir. Or, là, au Tabor, c'est le Christ incarné, qui connaissait comme vrai homme, qui tout à coup se manifeste devant les apôtres comme vrai Dieu, dans une lumière éclatante, éblouissante, qui évidemment les terrifie un petit peu. Et il ne faut pas oublier qu'il y a la présence de Moïse et de Élie à côté du Christ, qui montre bien la continuité entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance.
Est-ce que vous comprenez que la vie éternelle, ce serait comme une rencontre avec le Christ? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire?
C'est une participation à la vie divine. Alors, il faut être Dieu pour vous donner une description très précise de ce que c'est que la vie divine. En revanche, cette manifestation du Tabor vous montre comment Dieu, l'homme, Jésus, se manifeste comme Dieu.
Au fond, c'est une façon aussi de pouvoir saisir que la vie éternelle ne nous est pas réservée après la mort.
Non, elle est présente, c'est ce que dit très bien d'ailleurs Vergely, et c'est également ce que nous ont montré les mystiques, qui, dans un instant ou dans des instants, des moments fulgurants, vivent une autre vie, une sorte d'autre vie.
Halte spirituelle, Madeleine Vatel.
On n'est pas tous des mystiques, donc comment est-ce que nous, chrétiens, on peut avoir cet aperçu ou à minima cette idée que la vie éternelle peut commencer déjà maintenant sur Terre pour nous?
Déjà, il y a le silence. Le silence, le recueillement. Et pour moi, il y a une approche de la vie éternelle, c'est par la beauté. Et quand on est devant un paysage et qu'on dit « Mon Dieu, que c'est beau !» Au fond, communier avec la beauté de la création, on est en quelque sorte en lien avec le Créateur.
Avec ce qui est plus grand que nous, finalement.
Exactement.
Alors, la vie éternelle, c'est aussi présent avant le Christ, notamment chez beaucoup de philosophes. Alors, qu'est-ce qui différencie la vie éternelle telle qu'elle est comprise par les chrétiens de celle qui est présentée par les philosophes?
Alors, les philosophes, je ne dirais pas trop, mais il y a certaines sagesses, si vous voulez. Mais on sait, par exemple, alors, dans les civilisation ancienne, mm-hmm. qui avait conscience d'une vie ou une espérance d'une vie après la mort. Et l'exemple le plus extraordinaire, c'est l'Égypte ancienne, qui nous ont laissé des témoignages tellement nombreux, tellement splendides d'ailleurs, et qui étaient des rituels et des croyances extrêmement fortes. Mmh. Et il y a, par exemple, voilà pour ceux qui veulent étudier, un livre des morts égyptien et un livre des morts tibétain. Donc il y avait un rituel aussi dans d'autres civilisations. Je crois que ça vaudrait la peine, effectivement, de réfléchir et travailler sur ces sujets-là. Je pense que aussi le taoïsme, il y a peut-être une trace. Je ne sais pas.
Et alors, dans ces cas-là, on parle de la vie éternelle après la mort. Et vous, oui. Vous venez nous dire autre chose. En tout cas, le Christ vient nous dire autre chose.
Alors, ça, c'est quand même une vision très chrétienne, et bien sûr, de la Trinité. C'est-à-dire qu'il y a Dieu, le Christ et le Saint-Esprit. Et n'oublions pas que le Christ nous a dit qu'il envoyait l'Esprit, qui se manifeste de façon extraordinaire sur les apôtres au moment de la Pentecôte. Et d'ailleurs, quand on lit attentivement l'Acte des apôtres, on s'aperçoit que Paul ne prend ses décisions pour aller vers la Macédoine alors qu'il voulait aller vers Jérusalem, parce qu'inspiré par l'Esprit Saint.
Et c'est cette présence-là.
Oui, cette présence-là, qui fait qu'on est en harmonie avec soi-même et avec le ciel.
On va plonger un peu dans l'Ancien Testament, parce que sur cette question de la vie éternelle, vous invoquez Isaïe. On va en écouter un extrait pour mieux comprendre comment il nous parle de la lumière, mais aussi de la vie éternelle, au chapitre 60, versets 1 à 3 et le 19.
Mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive ta lumière. La gloire du Seigneur sur toi s'est levée. Voici qu'en effet les ténèbres couvrent la terre et un brouillard les cités. Mais sur toi le Seigneur va se lever et sa gloire sur toi est en vue. Les nations vont marcher vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton lever. Désormais ce n'est plus le soleil qui sera pour toi la lumière du jour. Ce n'est plus la lune avec sa clarté qui sera pour toi la lumière de la nuit. C'est le Seigneur qui sera pour toi la lumière de toujours. C'est ton Dieu qui sera ta splendeur.
Alors, on passe très vite de la vie éternelle à la lumière de toujours. Au fond, vous faites une association entre la vie éternelle et la lumière.
C'est beaucoup plus. La lumière, c'est d'abord la vie. Sans le soleil, il n'y a pas de vie sur Terre. Et donc, la lumière est essentielle. Dieu crée d'abord la lumière. Et après, la création se déroule. Et la vie existe de par la lumière du soleil, par la chaleur du soleil. Et donc, c'est un élément fondamental de notre existence. Alors, il ne faut pas oublier l'opposé. La vie et la lumière et les ténèbres, qu'on assimile après au bien et au mal, et à la vérité et au mensonge. Les ténèbres, le mal et le mensonge sont les domaines de Satan. Quant à la lumière, le bien et la vérité, c'est le domaine de Dieu.
Alors dans votre ouvrage, c'est intéressant parce que vous retrouvez tous les passages où il est question de lumière. Il faudrait plusieurs heures pour approfondir cette thématique, mais c'est vrai qu'on comprend bien que ça traverse toute l'Écriture, toute la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament. Peut-être dans le Nouveau Testament, Saint Jean le théologien, l'évangéliste par excellence de la lumière, dites-vous, 33 fois dans son évangile, qu'est-ce qu'il vient nous dire du Christ et de la lumière ?
Simplement, le Christ dit « Je suis la lumière du monde ». Et le Christ dit également que ceux qui croient en lui auront la vie éternelle. C'est à la fois simple et c'est évidemment à méditer.
Une question pour ceux qui nous écoutent et qui se disent « Mais parfois ma vie est plongée dans les ténèbres et j'aimerais tant être aussi cette lumière dont parle le Christ, cette lumière dont parle Isaïe. Comment garder la lumière dans son cœur quand parfois ce sont les ténèbres qui viennent y habiter ?»
Vous avez raison, c'est la difficulté dans les épreuves de trouver petite lumière, c'est-à-dire qui s'appelle l'espérance. Alors c'est évidemment un don de Dieu, mais en même temps ça peut être des choses très humbles, une rencontre, un événement inopiné, un souvenir. C'est des choses très humbles, mais qui peuvent compter beaucoup. Je crois que là, il faut être attentif à la vie dans tous ces aspects multiples.
Et puis, on est invité, justement, quand tout va bien, à être nous-mêmes des lumières pour les autres.
Il faudrait, en tout cas, voilà. Et pas seulement des consommateurs.
Et vous rappelez que ce terme de Christophore, qui est très beau...
C'est le Christ lui-même qui appelle ses disciples, par leurs bonnes actions, à être des lumières dans le monde pour justement montrer comment, comme disciples du Christ, ils sont des hommes de bien, qui agissent bien, et à ce moment-là, ils sont une référence. Alors justement, pour nous, on dit une référence, mais le Christ dit une lumière. Et on le dit, on les appelle, effectivement, vous avez raison, des Christophores.
Merci beaucoup, Marina Copsidas. On se quitte avec cette citation de Saint Jean. Il était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant au monde. Et c'est Saint Jean, chapitre 1, verset 9. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « À la rencontre de la vie éternelle » publié chez L'Harmattan. À demain.
Oui.